RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC, à télécharger tous les mardis sur rmc.fr. On est en plein playoff. Gros podcast à venir avec notre Dream Team, Arnaud Valadon, Frédéric Weiss et Félix Gabory. Salut les gars.
Salut Pierre. Salut,
Félix qualifié, t'as passé un premier tour de playoff la semaine dernière, c'est bon. Tout le monde m'a dit il est énorme le mec, donc tu reviens deuxième semaine.
Hein, c'est le plus dur.
Voilà.
C'est le Anthony Edwards du podcast peut-être.
Alors, c'est un spécial playoff avec une thématique tout de même sur les fins de cycle, puisque les Lakers, c'est fini. Les Lakers, en tout cas, pour cette saison, c'est terminé. L'avenir de LeBron James, on va en parler dans notre deuxième débat. Mais on va d'abord démarrer par un garçon qui devient l'ennemi public numéro 1, le nouvel ami de Frédéric Weiss, Joel Embiid. Embiid devient-il imbuvable ? Alors, les Sixers sont pas encore éliminés, c'est mal parti. Hein. Face à New York, c'est une des meilleures séries, une des plus intéressantes en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez.
Rivalité.
Il y a une rivalité. Intensité. Alors, par contre, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y a plus de fans de New York à Philadelphie que l'inverse. Donc, très impressionnant ce qu'on a vu par rapport à ça.
Et puis, un basket qui doit te plaire, Fred, non ?
Bah, c'est rugueux, dépend, c'est un peu les années 90, c'est dur, ça me fait des grosses fautes.
Alors, les shoots rentrent pas, mais du coup, il y a de l'engagement.
Mais en même temps, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas mettre des shoots et dire qu'après, la défense prime. La défense prime, c'est les playoffs et c'est comme ça que ça joue.
Et Embiid, quel joueur quand même.
Quel joueur incroyable. Mais oui, tu prêches à Gobert.
Et puis, vous allez me dire dans la partie historique, vous allez me raconter la fin de carrière d'un très grand joueur. Alors, ça peut être une fin de carrière idyllique ou cauchemardesque, hein, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de fins de carrière bizarres en NBA quand même.
Beaucoup.
Donc vous avez choisi chacun de me raconter la fin de carrière d'un joueur qui est sorti par le haut ou qui a fait n'importe quoi. Le quiz mélangera les deux thématiques, hein, l'actualité et les fins de carrière. Et nous, on est parti d'abord sur donc le nouvel ami de Frédéric Weiss, Joel Embiid.
Is it time to consider Joel Embiid as one of the dirtiest players in the NBA?
The contact by Embiid was deemed unnecessary to a player taking him out of the air. It's been upgraded to a flagrant foul, penalty one.
Embiid gets right to work for the Sixers. Embiid's gonna sling it. That's good.
A clear elbow to the head of Jalen Brunson. Embiid literally grabbed both of Mitchell Robinson's legs in the paint and tried to tackle
him. Listen,
you're
gonna have things that go against you. You've got to keep control of those emotions.
Embiid leans in over the top of a double team.
Game three has looked a lot different from games one and two. Embiid trying to fend off the defense. Boy, that is incredible.
There was no question that Joel Embiid should have received a flagrant two and should have been ejected for that game.
Embiid splash!
Alors, donc, on est sur Philadelphie, New York, une des plus belles séries en cours. Au moment de ce podcast, donc, il y a 3-1 pour New York, mais tous les matchs sont disputés. C'est assez intéressant. Et alors, on va s'intéresser, nous, à Joel Embiid, un des meilleurs joueurs des playoffs. Peut-être le meilleur, hein, parce que, franchement, il est assez impressionnant. Mais un comportement qui fait de plus en plus parler, des fautes très sales. La liste commence à être longue. Hein. Il y a une petite compile qui est sortie que, bien entendu, j'ai reçue par hasard de la part de Frédéric Weiss, qui est abominable.
Coïncidence.
Si on ajoute son mensonge à la France, Joel Embiid devient-il détestable ? Voilà le débat que je vous propose. Je ne sais pas si je démarre par Fred. Je ne sais pas parce que ça peut
Mais
être...
je ne vais même pas le fracasser, donc tu peux commencer.
Moi, là, je suis hyper vas-y, dis-moi ce que tu penses.
Ce que je pense, c'est qu'à un moment, tu ne peux pas te plaindre de recevoir plein de fautes et en faire des aussi sales, c'est ça le problème déjà.
Très bien. Arnaud.
Oui, le point, l'étincelle où tout est parti sur Joel Embiid, c'est ce fameux match 3 où il tombe au sol dans la raquette et il arrache la cheville de Mitchell Robinson. Il fait tourner la cheville de Mitchell Robinson qui, du coup, se tord la cheville. En plus, c'était une cheville gauche où il a déjà été opéré. Il était out dimanche soir, Mitchell Robinson. Mais ces mauvais gestes, finalement, viennent se rajouter dans la fameuse compile que tu as vue, puisqu'on a vu un coup d'en avant sur Brunson, des attitudes pas fair play, il flop, il se plaint aux arbitres et on a même revu une image de 2022 où il fait exprès de tomber dans sa raquette et là, il tombe sur son partenaire Danny Green. Ça lui tord le genou, ligament croisé, fin de carrière terminée pour Danny Green. Ça aurait pu rentrer dans notre partie historique.
C'est son coéquipier.
C'était son coéquipier, absolument. Et puis les paroles, assez... en conférence de presse, hyper confiant, on est bon, on va gagner cette série, on est une meilleure équipe.
Alors, cela dit, je comprends qu'il soit confiant, c'est quand même une sacrée équipe. Hein.
C'est une très belle équipe quand lui est performant, hein, concrètement.
Et tu rajoutes, et vous l'évoquiez, ça, il s'en est pris à l'arbitrage notamment, à la NBA, dénonçant presque un complot. Et là, il s'est plaint des fans des Sixers, puisqu'effectivement, lors des deux matchs à Philadelphie, il y avait plus de fans des Knicks qui l'ont assez conspué, assez humilié. Bref, le MVP 2023, proche désormais de la sortie en play-off et peut-être même de la sortie de route parce que les médias américains se déchaînent un peu sur lui parce que c'est aussi les Knicks en face.
Et tu le trouves imbuvable, Fred ?
Je suis partagé parce qu'effectivement le mec est complètement imbuvable dans son jeu. Parfois il fait des fautes. Mitchell Robinson, c'est abusé ce qu'il a fait. Il faut se rappeler ce qu'il avait fait à Grant Williams où il marche sur la tête aussi. Ouais, ouais. Il y a une action aussi où il marche sur la jambe de Josh Hart. Ouais, exactement.
Bon, on voit clairement qu'il le fait exprès. En fait, c'est fortuit. L'action est fortuite. Ouais, mais s'il peut en profiter pour lui massacrer le tibia.
C'est exactement ça. Il va pas le chercher forcément, mais la jambe traîne. Ok, bah, je vais te marcher dessus. Je trouve ça un petit peu limite, surtout pour un mec qui se plaint tout le temps, qui est en conférence de presse. Pleure et ça c'est un peu imbuvable, mais après jouer sale c'est quand même une habitude, hein. Concrètement, moi dans les années 90, qu'est-ce qui se passait, surtout quand c'était à la conférence Est, c'était ce genre de jeu, c'était hyper dur, c'était, et tout le monde disait que c'était génial. Donc à un moment faut savoir ce qu'on veut aussi, et j'ai regardé le dernier match contre New York et il y a un truc qui m'a choqué,
c'est
que dès qu'il se passe quelque chose c'est la faute de Joel Embiid. C'est-à-dire que maintenant, on ne se pose plus de questions. Parfois, il arrive de donner un coup.
Tu vas commencer à le défendre.
Non, c'est pas ça. Ben non, mais moi, ce qui m'énerve, c'est l'acharnement. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose,
c'est de sa faute.
C'est de sa faute.
Ouais, c'est de sa faute si c'est de sa faute. Ouais. C'est-à-dire, c'est de sa faute si on pense que c'est toujours de sa faute.
L'histoire
de Pierre et le loup, c'est toujours pareil, hein, quand tu vas trop loin.
C'est pas qu'on avait parlé de Pierre et le loup.
Toujours, mais dans le sport, c'est une sorte de mythe qui s'applique parfaitement au sport, Pierre et Leloup. Quand tu vas trop loin dans ton personnage, tu te le reprends un jour ou l'autre dans la gueule, et c'est exactement ce qui est en train d'arriver à Joel Embiid.
Il est exactement en train de lui arriver, ça, exactement. Parce que maintenant, même quand il ne fait pas exprès, parce qu'il y a des fois où il ne fait pas exprès, parce que c'est un gabarit hors norme, parce que c'est un mec qui va au combat, c'est parce qu'il est dans l'impact, à un moment, il fait des fautes qui sont un peu dures. Sauf qu'il n'y a pas toujours cette volonté de baisser.
Oui, mais c'est l'accumulation, en fait, qui fait. Arnaud, tu l'as dit, tu as fait la liste de tout ce qu'on peut lui reprocher. En fait, chaque chose n'est pas si grave, mais c'est mis bout à bout, en fait, que ça devient très grave. C'est l'accumulation. Et moi, je trouve, en plus, le point de bascule, c'est vraiment ce qu'il fait sur Mitchell Robinson.
Non, ça, c'est. Ça, c'est,
non, mais c'est hyper dangereux. Je suis d'accord avec toi, Fred. C'est bien, hein, de jouer sale, ça nous rappelle les années 80, 90 et tout. Mais quand tu blesses un joueur, parce que là il le blesse, hein. il est out au match 4.
Mais c'est la faute à qui ?
Mais quand on dit jouer sale, il y a une différence entre jouer dur et dangereux. Hein.
Ouais, là il a voulu blesser, c'est pas ouais, j'ai un peu mon coude en avant, on sait que dans le basket c'est vraiment je suis au sol et je veux tordre ça. Lui en plus, qui a des problèmes de genoux, faire ça, je trouve ça totalement bête.
Il devrait le comprendre, mais c'est vrai que c'est là que j'ai un problème, le mec peut jouer sale et moi ça me pose pas de problème, au contraire j'adore ça, et qu'il y ait des coups, qu'il y ait des impacts, ça me pose pas de problème. Mais c'est vrai que celle de Mitchell Robinson, pour moi, elle est infâme, il doit sortir, et c'est là que les arbitres ne font pas leur taf. Ouais. Il doit sortir à ce moment-là. Si t'es pas sanctionné, bah tu continues. Hein.
C'est la question qu'elle est posée dans le débat, est-ce que tu le trouves imbuvable, Félix ?
Là maintenant, oui, il l'est devenu justement, avec cette accumulation, avec ce qu'il fait sur Mitchell Robinson, et surtout il y a le contexte de nous en France, parce que là la question c'est imbuvable pour les fans français, on est français, avec toute l'histoire de la lettre et tout, il nous a vraiment quand même
si pas respecté. S'il vient au JO, ce qui n'est pas encore certain à 100%, si on croise la route des États-Unis, ça va être incroyable. Hein.
Ah bah, ça va être génial.
Moi j'ai peur qu'il nous massacre. Parce qu'il est tellement fort que je pense qu'il s'en fout.
Lui, s'il prend la jambe de Rudy Gobert et qu'il essaie de la tourner et qu'il prend une faute disqualifiante.
Arnaud, imbuvable ou pas ?
Oui, parce qu'en fait, c'est le décalage d'attitude. Vouloir faire le dur, le tough guy. Mais quand tu vois la façon dont il se comporte hors parquet, alors il a déclaré être victime de la maladie de Bell avec un peu une paralysie faciale, donc on sent aussi peut-être quelqu'un qui n'est pas totalement dans son assiette, peut-être frustré aussi parce qu'ils se font marcher dessus par les Knicks.
Arnaud, ça fait beaucoup, hein. Il a le genou qui rend vrac, ensuite il a cette paralysie faciale, honnêtement
c'est pour ça
sur ça, on peut au moins lui reconnaître ça.
C'est pour ça que je veux un peu contextualiser ça, on sent aussi peut-être un joueur qui reste en norme sur le terrain, mais qui est peut-être pas dans toutes les dispositions pour être lucide d'un point de vue peut-être mental. Mais moi, c'est le décalage entre je suis un dur, machin, et ensuite je vais me plaindre aux arbitres, la NBA contre nous, c'est un peu ça. Soit tu fais le dur, soit tu le fais pas.
C'est vrai.
Mais là, l'entre-deux fait que ce décalage produit un petit peu cette vague, j'allais dire pas de haine, mais cette vague qu'on voit aux États-Unis, en plus contre les Knicks, qui ont beaucoup de journalistes influents. On parle souvent de Stephen A. Smith, grand fan des Knicks, donc ça rajoute du bashing Embiid par-dessus les fans des Knicks, qui ça t'offre, tu joues les Knicks, ça offre une exposition médiatique tout autre. Et je pense que tout ce cocktail-là fait qu'on en arrive à cette situation où on a le sentiment qu'il est imbuvable.
Après, il y a dans l'histoire avec la France, il y a évidemment donc cette lettre d'engagement de
c'est
porter
le
maillot bleu.
Fred a parlé en fait. Hein.
Non, Fred a parlé depuis qu'on a sorti la lettre.
Mais évidemment.
Mais lui, Embiid est imbuvable depuis que Fred a parlé.
Et lui, clairement. Il est énervé clairement contre la France. En tout cas, c'est ce qu'on a compris de cette déclaration après le match 2 où il refuse de répondre à une question en français. On va le réécouter.
Est-ce que c'est l'un des matchs les plus difficiles
I'm not talking in French.
Ouais, je pense
qu'il a un sacré accent. Hein.
Le problème de ce garçon, c'est qu'il se trompe de combat souvent. Et c'est pour ça qu'il est imbuvable.
Est-ce que ça ne rend pas plus fort?
Ben non.
Tu crois?
En fait, t'es plus fort quand tu gagnes. Malheureusement, même s'il est exceptionnel sur le terrain, ben il gagne pas. Donc tu peux ouvrir ta bouche quand tu gagnes. Malheureusement, il a une attitude calamiteuse sur le terrain avec des fautes désastreuses. Il ne gagne pas. Et il joue contre New York, effectivement. Et là, ça te met vraiment sous les feux de la rampe. Donc c'est très compliqué. Pour moi, il est imbuvable, mais aussi par sa faute.
Ceci après, dit, pour face aux Knicks, excuse-moi Arnaud, face aux Knicks, c'est le besoin justement de jouer plus dur, de se mettre dans l'intensité. On sait que les Knicks sont une équipe très intense avec Tom Thibodeau et tout. Je pense qu'il a eu besoin de ça pour se motiver. On l'a dit en plus, c'est compliqué pour lui physiquement.
Tu blesses pas des joueurs.
Oui, mais en fait,
il y a une différence. Il y a cette nuance. Je pense qu'il l'a pas cette nuance.
Il se laisse déborder par ça justement. Oui. Mais à la base, il s'est dit, je vais jouer dur. Mais en fait, il s'est laissé embarquer dans
sa durée. Après, il fait des gros matchs.
Hein. Il fait des très gros matchs. Et en plus, je trouve que.
Attends,
en plus
35 points,
Félix. Le match 4, il disparaît un peu dans le 4.
Il disparaît dans le Money Time, ce qui est très étonnant. Mais il est défendu aussi par les Knicks.
Il défend super bien les Knicks.
35 points, 9 rebonds, 5,5 passes pour Joel Embiid qui joue presque 40 minutes, 15 lancers tentés par match sur cette campagne de playoff.
Après,
donc tu vois aussi. Hein.
Si on dit un mot de la série, quand tu as dit tout à l'heure, ils sont marchés dessus par New York, moi je trouve pas. Il y a 3-1 et ils sont dans la difficulté parce que New York peut conclure à domicile lors du match 5. Moi je trouve pas qu'ils se font marcher dessus.
Je ne sais pas si on du match 2. Hein.
Je les ai même trouvés meilleurs sur le match 4. Que New York. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, que New York a tout intérêt à finir là, à domicile, parce que sinon, je garantis
pas. Oui, parce
que
le match 2, ils peuvent le prendre. Hein. Je crois que c'est Philadelphie qui fait n'importe quoi.
Mais
dans
le match
2,
il faut se rappeler, ils perdent un ballon, c'est DiVincenzo qui rate le premier shoot, il récupère, il remet le shoot finalement. Deux rebonds offensifs, très très compliqué. Non. Mais le match 3, ils vont au bout du truc. DiVincenzo ne joue plus. C'est Achiuwa qui est sur le terrain parce qu'il faut récupérer des rebonds, ils ne mettent pas un panier. Donc ils sont pas dans la facilité quand même. Et effectivement, ils perdent à la maison, tu vas en match 7 hein, parce qu'ils gagneront le prochain à Philadelphie.
Pour préciser, quand je dis marcher dessus, quand tu vois les matchs, effectivement, c'est serré, ça joue toujours dans les deux dernières minutes du quatrième quart-temps, mais je trouve New York sur le momentum, la façon Brunson inarrêtable, plus un côté dans la série dynamique de la série, je trouve que les Sixers subissent trop l'Enix, où là, vraiment, l'Enix, la rotation Thibodeau, Josh Hart, ces joueurs-là qui sont présents, sans Randle, on rappelle l'Enix.
Oui, mais le problème, c'est que tu te dis, il suffit qu'il y ait un soir sans de Brunson, quelle est la solution?
Il ne va pas mettre 47 points tous les soirs.
Vu que c'est son record, je pense qu'il ne va pas le faire tous les soirs.
Il n'y a pas trop d'autres options, en tout cas.
Moi, je trouve que le jeu d'Enix est un peu limité quand même par rapport à ça, c'est à Brunson et le reste.
Donc, série pas finie, on est d'accord.
Pour moi, c'est pas fini. Ça peut aller au match.
Félix?
Ouais, pour moi, ça peut aller au match aussi.
Arnaud,
c'est pas fini, mais un petit 4-1 X, je suis preneur.
Et dans ce.
Bah là, ça voudrait dire que c'est fini, en fait, du coup.
Oui. Et je peux pas te le dire avec certitude. Mais
dans cette conférence Est, il y a un truc qui se dégage, là, pour l'instant. Boston très au-dessus ou pas forcément?
Très au-dessus, mais on voit qu'il y a eu des blessés. Porzingis s'est blessé, Tatum s'est blessé un petit peu. Et finalement, t'as White qui arrive, qui te met 38 points. Il y a une profondeur dans cet effectif, et c'est ça qui fait la différence.
Sur les autres séries?
Indiana.
Juste sur Boston, pas forcément au-dessus, parce qu'en face, c'est un Miami sans Jimmy Butler, donc très amoindri. Donc, c'est compliqué de tirer des conclusions.
Mais donc, au-dessus. Oui, du coup, non, mais en fait, du coup sur le constat sur la série, ouais, au-dessus.
C'est
parce
pour,
que
le reste, pour le reste de la campagne des playoffs à l'Est. En fait, c'est compliqué de se dire qu'ils envoient un message.
Ah non, ils envoient pas de message. Mais clairement, pas de message.
Très amoindri quand même.
Je suis d'accord, ils envoient pas de message, mais quand même au-dessus.
Et ouais, Arnaud, quand même, un mot des Pacers. même exactement. Si Yanis est blessé aussi. Hein, donc,
Oui, puis on voit dans le marasme ambiant, on pensait à Doc Rivers, mais que Milwaukee, quand on voit comment s'est passée la saison, on se dit qu'en play-off, ça ne va pas passer. Et on a Indiana qui se réveille, Haliburton, notamment, qui avait eu un coup de mou après l'All-Star Game, l'All-Star Break. Là, il revient, il refait ses passes. Très intéressant ce qui est mis en place à Indiana. Pascal Siakam, qui a fait quelques cartons aussi à plus de 30 points. Donc,
Lillard absent au match 4 aussi, faut se rappeler
Lillard
ça.
Lillard absent. Donc, voilà, donc,
Milwaukee. Ça complique forcément quand tu as un Big Three et qu'il t'en manque deux.
Le Big One.
Le Big One, c'est difficile. Hein.
On a quand même du mal à se projeter sur une finale sans Boston, on est d'accord ?
Ouais, c'est impossible.
Et après, pour moi, c'est impossible. Qui serait l'adversaire en face ? Les Bucks, les Knicks.
Le vainqueur de Knicks Philly ?
Ouais, j'allais dire ça aussi.
Bien sûr.
Un retour de Giannis peut pas changer la série, non ?
Enfin, il va revenir vite. Hein.
Ouais, c'est ça. Au prochain match, il finit.
Bon, on va passer à l'Ouest dans ce Basket Time. Je vous rappelle que vous podcastez votre rendez-vous basket tous les mardis sur rmc.fr. L'Ouest, où les Lakers sont disparus. The end is clearly near for LeBron James and the Los Angeles Lakers. With Murray with the game winner. Murray to try to break the tie. Zeroes on the clock. The Nuggets advance. They have won. Here he puts up a three. Bullseye. LeBron puts it through. LeBron James a triple. Got it.
LeBron. I don't think there's anyone at this age that's played at this level that I've ever seen in my life.
Long shot, LeBron. What a stroke.
Nah, I just want to get on to the family, honestly. It's about family right now. And then in a couple months, I got to go to Vegas for training day. I got to rest my body for USAB. But...
Jamal Murray. Reminiscent of game two, but this one is going to send the Lakers home and to Cancun.
Alors, les Lakers ont résisté, mais Denver était plus fort. Donc, ça a fait 4-1 dans ce tour entre les tenants du titre et les Lakers. La saison de LeBron est terminée. Maintenant, le feuilleton de sa fin de carrière peut commencer. Quelle franchise, combien de saisons, quel contrat, avec ou sans Bronny James? Pourquoi pas les Spurs? J'ai vu passer ça. Je ne sais pas si c'est un fantasme de supporter.
C'est un fantasme de supporter.
S'il y a une petite chance que ça arrive, parce que clairement, là, il a le monde à ses pieds, hein, LeBron James. Il a une option. Mais c'est pas sûr qu'il l'active, Arnaud. Hein.
Une option à 51 millions de dollars. Je sais pas si vous aviez une option dans votre contrat.
Alors à 51 millions, j'aurais prise moi.
Pour LeBron, effectivement, il a refusé de répondre à son avenir en conférence de presse cette nuit, en disant je ne vais pas commenter cela. Le point central, tu l'as dit, c'est peut-être Bronny James, son fils, qui s'est déclaré éligible à la draft 2024. The Athletic rapporte que les Lakers seraient ouverts à le drafter parce que le grand rêve de LeBron James, c'est de jouer avec son fils, sachant que sa famille se sent très bien à Los Angeles. Évidemment, je pense que tout le monde se sentirait bien à Los Angeles. Il y a des rumeurs. Est-ce que les Clippers pourraient bouger? Ça reste à Los Angeles. Steve Ballmer, le propriétaire, a beaucoup d'argent, beaucoup d'ambition. Et il y a la nouvelle salle magnifique qui arrive pour les Clippers. Mais que veut aussi LeBron? Aller chercher une nouvelle bague, un nouveau titre pour LeBron James, un cinquième titre. Là, il faut chercher une équipe plutôt compétitive et les Lakers ne semblent pas être celle qui a le plus de marge de manœuvre. Donc, c'est-à-dire bouger, mais où ? On rappelle la saison de LeBron, 25 points, 7 rebonds, 8 passes en saison régulière. Et là, sur cette campagne de play-off, 40 minutes de moyenne à 28 points, 7 rebonds, 9 passes et 56%. Donc, il est encore plus que compétitif à son âge avec bientôt ses 40 ans.
Alors, l'option numéro 1, ça reste...
39. Bientôt, 39, ouais. 40 ans décembre.
Ça reste les Lakers, non ? L'option numéro 1.
L'option numéro 1, je sais pas.
Tu sais pas ?
Non, je sais pas. J'étais quasiment sûr, mais je sais pas. Moi, je sais que je pouvais plus jouer avec Anthony Davis. Parce qu'Anthony Davis, hier, il a un contact épaule avec Porter Junior. Et le mec, on dirait qu'il a pris un train dans la tronche. Porter Junior, je veux bien, il est costaud. Oui, donc il lui met pas un bump extraordinaire. Et le mec est KO pendant presque tout le troisième quart-temps. Donc je pense que LeBron, il en a marre de ça, un moment. Il a besoin de quelqu'un à ses côtés. Parce que concrètement, le supporting cast des Lakers, c'est pas suffisant. Je pense que maintenant, LeBron, c'est quoi ses deux objectifs ? Peut-être prendre une autre bague et jouer avec son fils. Bah, je suis pas sûr.
Est-ce que les deux sont compatibles?
Bah, je pense que c'est compatible, mais il faut trouver
Bronny
la bonne
James,
équipe.
Personne sait ce que ça vaut.
Ça vaut rien. Enfin, pas grand chose en tous les cas. Ça vaut pas un premier tour.
On annonce plutôt même deuxième tour. Hein, oui, dans clairement. Une draft faible. On rappelle 2024. Tout le monde dit que c'est pas une classe de draft. Et
il peut très bien aussi se présenter l'année prochaine, Bronny.
Oui, non, mais je pense qu'il va se présenter cette année parce que LeBron ne va pas jouer 14 ans encore. Mais imagine un peu le truc. LeBron dit OK, les gars, je prends le minimum vet si vous draftez mon gars. Mais qu'est-ce qui va se passer?
Bah là,
Bronny va monter énormément dans la draft.
Il peut même être numéro 1 presque.
Et franchement, peut-être. Ouais, peut-être ouais. qu'il peut fausser la draft
c'est-à-dire
avec
que
ça.
Tu récupères un LeBron James soit à 40 ans, mais, ouais, au salaire minimum, c'est fantastique.
C'est fantastique, c'est un coup médiatique incroyable, c'est génial pour tout le monde, tu fais jouer les deux ensemble, c'est historique. Voilà, alors l'option Clippers, j'y crois pas du tout. Quand t'es à Lakers, tu vas pas jouer aux Clippers.
Après, il y a Tyronn Lue, avec qui il est champion à Cleveland sur le banc.
Pour moi, c'est impossible.
Est-il un vrai Laker?
Mais oui, est-ce que c'est un vrai Angelino?
Mais oui, bien sûr que c'est un vrai. Bien sûr.
Ah, c'est un vrai cas.
Il a gagné un titre, quoi, là-bas. Bien sûr que c'est un vrai.
Alors, ça prend pas de joueurs.
Il chauffe, il monte en pression quand on parle des Lakers.
Non, mais c'est pas possible, vous dites n'importe quoi.
Bon, on va voir avec son choix si c'est un vrai Angelino.
Ah, donc, en fait, si jamais il signe aux Clippers, ça deviendra le nouveau Joel Embiid. C'est-à-dire massacré.
Mis à part que lui, on aura pas envoyé un courrier au président, mais je serais un peu énervé. Oui,
Fred, même s'il signe ailleurs que Lakers, quelque part. Si c'est un vrai Angelino, il reste. Il restructure peut-être son contrat, mais il reste. Non, mais il va pas aller ailleurs.
Je vais t'expliquer. Dans la vie, il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'être un basketteur, un sportif, et peu importe, et l'autre d'être père. Et père, c'est beaucoup plus important. Donc, pour moi, s'il part pour son fils dans une autre franchise, ça ne pose pas de problème. S'il va aux Clippers, ça m'en fout.
Avec son fils.
Même avec son fils.
Là, il avec son père.
Honnêtement, ils feront tout pour qu'il ne soit pas drafté par les Clippers. C'est pas possible.
Félix, quelle est l'option numéro 1 d'après toi?
Et moi, je pense qu'avec les Lakers, ils peuvent gagner. Je ne suis pas d'accord avec toi, Fred, sur la qualité du groupe. En vrai, pour moi, la vraie interrogation, c'est Darvin Ham. Il a fait deux saisons là. Je pense que c'était sa dernière. Je pense qu'il a coaché son dernier match hier.
Donc tu pars à la guerre avec Anthony Davis?
Ouais, en vrai, sur la série. Quand tu regardes ses stats.
Alors la série est belle, hein.
Non, mais la série est belle, mais dès que ça compte un petit peu, dès que c'est un petit peu dur, le mec il prend un coup, c'est l'homme de verre.
En 2020, ouais, il fait des playoffs extraordinaires, Anthony Davis.
Dans la bulle.
Ouais, mais quand même.
Tu peux dire aussi que LeBron a raté un shoot de la gagne, alors que c'est LeBron.
Ça n'a rien à voir. Là, Anthony Davis,
oui,
il a pris.
C'est dur quand ça compte. Ça compte un shoot de la gagne.
Effectivement, c'est comme si Félix me rentre dedans et que je suis blessé pendant une demi-heure. Ben non. Ouais, oui, ça va rien
on
derrière.
Va rester dans le couloir après.
T'exagères un chouïa quand même. Félix, il n'a pas les épaules de Michael Porter Jr.
Non, mais j'ai plus les épaules d'Anthony Davis non plus. Hein.
Non, il y a une stat incroyable pour rejoindre ce que dit Félix sur la série face à Denver. Donc 240 minutes, les Lakers ont été devant 165 minutes.
Ah, quand même.
C'est ça qu'il faut regarder
70%
aussi.
Du temps.
Donc, c'est que le 4-1,
des arguments à
c'est
Félix,
un peu un faux 4-1. Ouais, comme l'année dernière, c'était un faux 4-0. Évidemment que c'est sans appel.
C'est un faux 4-1, un faux 4-0, sauf qu'ils sont en vacances, c'est pas pas les Nuggets.
Mais il faut regarder qui est en face. L'année dernière, ils vont en finale de conf quand même, c'est pas rien. Ils se font sortir par le futur champion.
Ils vont dans le moteur après les Warriors.
Ouais, alors, juste une question, ils sont passés par
développer les arguments de Félix.
Le play.
Oui, mais quand même, c'est juste pour prouver un peu la qualité du groupe. Autour de LeBron James. Parce que moi, je vois beaucoup de choses ces derniers jours, ces dernières semaines. On a l'impression que c'est une équipe de DM1 autour de LeBron James et d'Anthony Davis. Je pense qu'il y a Darvin Ham, c'est une des principales interrogations. Et je pense aussi que, notamment D'Angelo Russell, qui était là un peu l'option 3 ou 4, ça dépend où est-ce qu'on met Austin Reeves.
De prendre de la place, un peu plus de place, tu veux dire?
Non, justement, c'est peut-être lui qu'il faut lui montrer la porte de la sortie. Ouais. Ah
bah pourtant, c'est une réussite quand même, malgré tout, parce qu'il est arrivé à escorter de plein de doutes.
Courant alternatif.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que tu regardes ces playoffs-là, les 2-3 premiers matchs.
Ils étaient presque moqués quand ils l'ont fait venir dans le
Mais je comprends. Parce qu'il l'avait drafté.
Je comprends. Au match 3 ou au match 4, il est à 0 points, 0 sur 7 au shoot, 0 sur 6 à 3
c'est
points.
C'est pas un bon match.
Non. En fait, à un moment, t'as besoin d'aider tes deux superstars. Et effectivement, Anthony Davis, sur les premiers matchs, est très très bon. LeBron est très très bon, sauf que Austin Reeves, il est bon sur les deux derniers matchs. Enfin, c'est compliqué aussi, le supporting cast. Vraiment,
Austin
compliqué.
Reeves, vrai bon joueur ou pas?
Alors, il a vraiment progressé. Défensivement, je trouve qu'il est bien meilleur. Il s'implique beaucoup plus. Et vrai bon joueur, mais pas troisième option. Peut-être quatrième, cinquième option.
C'est vrai. Arnaud, quelle est la première option pour l'avenir de LeBron James, selon toi?
Je pense de rester aux Lakers, parce que ça reste Los Angeles. C'est vrai que quand on voit aux États-Unis, sa femme adore Los Angeles. Elle ne va peut-être pas retourner à Cleveland, notamment. Je ne vois pas aujourd'hui... Alors évidemment, toutes les franchises veulent LeBron, mais est-ce que lui veut aller partout? Je pense qu'il est très bien à Los Angeles, son confort, et s'il peut jouer avec son fils, je pense qu'il ne va pas lever sa player option, mais restructurer son contrat, peut-être re-signer 2 ans à un tarif, alors peut-être pas 50 millions la saison, mais un 30 millions la saison.
Quand tu as une option à 50, il n'y a aucune raison de faire des cadeaux. Pourquoi est-ce qu'il lisserait son salaire sur deux saisons alors qu'il peut l'avoir sur une?
Je veux dire que Nowitzki, pendant des années, a fait en sorte de ne pas gagner trop pour avoir des joueurs autour de lui. Il n'y a que Kobe qui prenait encore des énormes chèques. Tu vois les joueurs, Damian Lillard qui va prendre pas loin de 60 millions la saison prochaine. Est-ce que c'est vraiment utile quand tu veux à tout prix chercher une bague et être compétitif?
Non, mais surtout, il faut quand même se rappeler ce qui se passe aux Lakers. C'est-à-dire qu'aux Lakers, tu as Anthony Davis qui a 60 millions. Et là, tu aurais LeBron à 50, c'est-à-dire 110 millions
de matchs salariales
pour deux joueurs.
Deux joueurs vieillissants.
Comment tu veux être compétitif? Il faut qu'il fasse un effort, LeBron, s'il veut être compétitif.
Et alors, quelles sont les autres options? Qu'est-ce qui est imaginable? C'est-à-dire sans délirer, sans fantasmer.
Les Warriors?
Les Warriors.
On sait que dans les semaines précédentes, il y a eu notamment c'est Rich Paul, l'agent et ami de LeBron James, qui a mis ça un peu sur la table. Donc après, à voir est-ce que c'est vraiment un peu pour faire monter la sauce ou autre.
Mais c'est vrai que les Warriors, pour le coup, on l'a fait mille fois le débat, mais ça a l'air d'être la fin.
C'est la fin.
Pourquoi pas, oui, un projet sur du court terme.
Avec Steph Curry, on sait que les deux s'entendent bien. Ils vont se voir un peu tout l'été là avec.
C'est un peu la même problématique, mais si c'est pas le même profil qu'avec Curry et LeBron, tu t'es explose la moitié de ta masse salariale.
Oui, mais aussi, il y a la question Warriors de Klay Thompson qui va sûrement partir. Moi, je ne le vois pas.
Est-ce que c'est compétitif, les Warriors? Parce que même si vous mettez LeBron, vous ne gardez pas Klay Thompson, même si c'était un peu mieux sur la fin de saison, mais juste Stephen Curry, LeBron James, est-ce qu'aujourd'hui, ça vous fait de vous un contenteur sûr et certain?
T'as Kuminga, ouais. qui a pris beaucoup d'importance cette année. Podziemski, qui est quand même plutôt très bon aussi.
Tu peux garder Wiggins peut-être aussi.
Ouais, aussi.
Mais à l'intérieur
À l'intérieur, tu gardes Davis. Jackson Davis.
Jackson Davis, ouais.
C'est plutôt pas mal non plus.
Ouais, est-ce que franchement, tu peux être assuré de faire finale NBA en 2025
en mettant LeBron et un autre joueur.
Et sachant que dans l'équation, il faut mettre Bronny quelque part. Hein.
Et Bronny.
Bronny qui va pas jouer.
Mais non, qui va apporter les bouteilles d'eau. Mais c'est cool. Il apportera les bouteilles d'eau à son père sur le terrain. C'est génial.
LeBron, il a été un peu moins catégorique sur Bronny. Je sais pas si vous avez vu sa déclage. Je crois que c'était hier, justement. Avant, il l'a dit très souvent, son rêve de jouer avec Bronny. Hier, il dit j'y ai pensé par le passé, mais il fera ce qu'il veut.
Ouais.
On a l'impression qu'il recule
qu'il est pas prêt, le gamin,
un petit peu. Il se rend compte que peut-être que le fiston.
Il a la pression.
Bah oui, c'est ça.
La pression qu'il met sur son fils.
Ah oui.
En fait, il met la pression sur tout le monde. Sur la NBA, sur les Lakers, sur son fils. Et c'est un peu chaud.
Si vous voulez jouer avec son fils, il avait qu'à appeler Steve Kerr pour Paris 2024. Pour les Jeux, tu le prends en 12e homme. De toute façon, il jouera pas. Et ça sera très bien.
Il aurait pu. Hein. Il aurait été capable.
Et alors, les Spurs, je disais tout à l'heure, j'ai vu passer ça plusieurs fois. Hein. Alors, sur des réseaux de fans de NBA. Hein. Je sais pas si c'est très sérieux. Est-ce que c'est envisageable?
Pour moi, c'est pas l'ADN du tout.
Ça ressemble pas à cette franchise.
Ça ressemble pas du tout à cette franchise qui construit.
Si c'était au salaire minimum.
Ouais, mais même, je sais pas s'ils prendraient ce risque. Ils ont leurs pépites, ils ont leurs diamants. Rajouter.
Après, y a pas grand chose quand même. Ils ont leurs pépites, excuse-moi. Il va falloir se renforcer quand même. Hein.
Mais il va falloir se renforcer, évidemment. Mais pour l'instant, la tendance est plutôt. On travaille, on fait progresser nos jeunes, plutôt que d'incorporer des
shot.
Ouais, voilà.
Je suis pas sûr que, comme la famille compte beaucoup, aller vivre à San Antonio quand t'es à Los Angeles, il y a moins de choses à faire. C'est mignon, San Antonio,
mignon.
Mais tu fais vite le
il
tour.
Beau,
hein.
Au moins, il fait beau.
Ça mettrait tellement la pression sur les Spurs aussi. C'est plutôt sur du moyen long terme et d'avoir un LeBron James, c'est que tout de suite sur Wemby, sur les Spurs.
Après, retourner à Cleveland.
Tu mets une pression, faut gagner dans les deux ans, quoi.
Ce qui leur manque un peu dans leur 5, c'est le poste 3. Là, ils ont Strauss notamment.
Non mais voilà, alors là
un retour
coup,
à Cleveland
avec Bronny à Cleveland chez eux, ça
t'imagines ce 5
et vous
Darius Garland, Donovan Mitchell, LeBron James, Evan Mobley, Jarrett Allen.
Franchement, vous savez où je le vois, moi, justement un retour à Miami.
Non.
Ami à Smith serait extraordinaire parce que Miami, ils sont ultra compétitifs, il va être comme un poisson
si
dans l'eau là-bas.
Si tu es, je préfère aller à Cleveland.
Ah, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas.
Et un dernier mot sur l'Ouest. Il y a quand même une demi-finale de conf qui s'annonce explosive entre les Nuggets et les Timberwolves, non ?
J'annonce les Timberwolves.
Ah, alors toi, ouais. Tu y vas comme ça ?
Impressionné. Alors certes, c'est des Suns avec le niveau niveau jeu collectif. Hein. On voit, c'est presque en train d'imploser, sauf qu'ils sont tenus par les contrats de tout le monde, entre Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant. Durant qui est pas content, le coach Frank Vogel déjà sur la sellette. On parle du rôle de Matisse Bia, le propriétaire qui se mêle un peu de tout, mais qui fait aussi un peu n'importe quoi. Ils ont aucun asset pour le futur. Et vraiment impressionné par ces Timberwolves. Un sweep clair, net et précis. Anthony Edwards, vraiment... étendard, porte-étendard, un très bon Rudy Gobert, tout est en place. Alors Chris Finch, il vient de se blesser, le coach.
Oui, j'ai vu ça, l'action est folle.
Un joueur lui est rentré, c'est Mike Conley qui lui est rentré dedans et presque ligament touché du genou. Impressionné, et je trouve quand même les Nuggets avec moins de ressources que l'an passé. Un Bruce Brown fait, je trouve, manque un petit peu à cette équipe. Longtemps, Mike Malone a cherché un peu sur son poste 2. Après, on a un Jamal Murray.
Est-ce que Jamal Murray n'est pas le meilleur joueur des playoffs actuellement? Enfin, pas loin.
Clutch.
Bon, joueur incroyable, joueur très clutch, mais il a des up and down dans un match. Hein. Il a été très bon au début de match, par exemple, Pierre, et il a été très bon à la fin. Entre les deux, Heureusement que Porter Junior était là.
Et puis Clippers Mavericks, très indécis ou avantage Dallas quand même ?
Indécis.
Moi j'ai une pièce. Ouais, c'est ça.
C'est indécis. C'est très indécis. On sait pas trop. Vraiment, c'est compliqué.
Surtout quand on voit en plus les Clippers, ça fonctionne mieux sans Kawhi Leonard. Donc en fait, il y a des trucs qui expliquent ça. On pourrait y revenir. Ça mériterait peut-être un débat de pourquoi les Clips marchent mieux sans Leonard. Mais cette série est tellement dure. Même dans un seul match, on l'a vu là, sur le match 4. Oui, c'était le match 4, c'est ça.
Oui.
Dans un seul match, il y a moins 31, les Mavs reviennent, et finalement, c'est les Clippers qui gagnent. Enfin,
moi, je trouve avantage quand même Clippers sur le coach. Je trouve Tyronn Lue maîtrise plus les éléments que Jason Kidd, qui avait laissé Maxi Kleber là, en fin de match. Ça a un peu heurté tout le monde. Et je pense que voilà, ça va jouer sur des détails. Je pense que Tyronn Lue peut clairement prendre l'ascendant sur Jason Kidd.
Quand même, pour sortir de cet enfer-là, parce que tu tapes donc Clippers Mavericks au premier tour, le Thunder au deuxième, le vainqueur de Nuggets Timberwolves en finale, parce que finaliste de l'Est.
Tu parles d'équipe impressionnante. OKC m'a impressionné énormément. C'est des jeunes vieux. C'est-à-dire que les mecs sont jeunes, ils ont des cannes, ils courent comme des fous. Mais au final, ils ont une expérience, ils prennent les choix. Oui, mais c'était important. Ils avaient énormément de pression quand même. Et donc, franchement, j'étais très impressionné.
C'est un basket time sur les playoffs spécial fin de cycle. On a parlé d'Embiid et de LeBron James. On va faire un peu d'histoire tout de suite.
Yes! Dwayne Wade, a triple-double in his final NBA game.
This is an Oscar-worthy script for a last dance for my last season.
There's the end.
And Michael Jordan, his scoring career ends with a pair of free throws. MJ says goodbye. He's done.
The Spurs closed out the New Jersey Nets to win their second NBA championship.
David Robinson walked away from the game as only he should a champion.
Now counts, drives on Russell. Can't get it up, and Russell takes it away. The Boston Celtics have done it again.
For the lead!
Years of everybody screaming to pass the ball. Then the last night, they're like, don't pass it. God, I love you guys. Mamba out.
Alors, pour cette partie historique, je vous ai demandé de me raconter la fin de carrière d'un très grand joueur. C'est pas forcément une légende, mais des joueurs qui ont marqué l'histoire de la NBA. Soit une fin de carrière complètement ratée, et il y en a beaucoup, des fins de carrière ratées. Soit, à l'inverse, la fin de carrière parfaite ou quasi parfaite. C'est Arnaud Valadon qui va commencer.
Captain Obvious, un peu. J'ai pris le dernier match de Kobe Bryant. On est en novembre 2015. Kobe annonce qu'il va prendre sa retraite à l'issue de la saison. Et c'est vrai que depuis sa blessure au tendon d'Achille, vous en souvenez.
5 secondes, tu vas nous dire à la fin seulement si c'est réussi ou raté.
De
la fin de carrière de Kobe.
Non, réussi.
Ah bon ?
Réussi.
C'est ça. Alors ça, pour vous, la fin de carrière de Kobe, c'est réussi sans aucun débat.
Tu finis ton dernier match à 60 points.
Alors vas-y, t'écoute.
Donc depuis sa blessure au tendon d'Achille en avril 2013, il n'est plus le même. C'est vrai, on sent clairement qu'il a perdu toutes ses capacités d'explosivité. Et à 35 passés, Kobe se fait vieux au sein d'une équipe des Lakers qui subit quand même un sacré déclassement, parce que de champion NBA au début des années 2010, c'est une équipe qui ne gagne même pas 30 matchs dans une saison, voire même moins de 20 matchs comme lors de sa dernière saison 2015-2016. Il fait donc sa tournée d'adieu. Il arrose comme jamais avec son pire pourcentage en carrière, 36% au tir. Vient donc son dernier match à domicile contre le Jazz de Utah le 13 avril 2016. Là, les prix s'envolent au Staples Center. $700 pour être tout en haut. 27 500 pour le billet le plus élevé. Le prix moyen est multiplié par 7 par rapport à un match de fin de saison régulière. Personne ne veut donc rater ça. Toutes les stars de Hollywood sont là. Ses anciens coéquipiers. Quelques jours avant, Shaq, sur le plateau de TNT, demandait ça à Kobe.
Kobe, they're doing a big celebration for you, the last game. A lot of us are going to be there. Can you promise me one thing?
What's up?
I need 50 that night. Can you do it? The last home game at the Staples, can you give us 50?
More than two? No.
Kobe, ça va être une grande célébration. Je serai là, tu peux me promettre quelque chose. Je veux 50 points ce soir-là. Est-ce que tu peux me promettre de marquer 50 points? Et là, Kobe, dans l'éclat de joie que vous avez entendu, dit non.
Il avait raison.
Il avait raison.
Il ne devait pas promettre.
Ensuite, on est quelques minutes avant le début de ce match contre Utah. Shaq est en bord de terrain. Et là, il rappelle à Kobe, j'attends 50 points ce soir. Et là, la réponse est différente.
So when I walked into the arena yesterday, I was like, hey, remember I bet you need 50. And he turned around with a look like he done and says, all right, I'll go for it. At first, you know, I was like, oh, I might not get it, but then it got to 37 and 45 and 57 and hit that three and the crowd goes crazy.
Kobe's got the Lakers last chip. Bryant, fourth three. Got him! Oh! Oh! the great farewell performances in any sport at any time. Kobe Bryant, 60 points.
Shaq qui raconte, hey Kobe, tu te souviens ce que je t'ai dit ? Je veux 50. Et là, Kobe a dit, ok, j'y vais, je vais les mettre. Et Shaq raconte pendant ce match, je lui dis, non, c'est pas possible. Et là, je vois 37 points, 45 points. 57 points. Au final, 22 sur 50 au tir. Du grand Kobe quand même dans le texte. 6 sur 21 à 3 points. Et surtout, il permet aux Lakers de gagner dans le Money Time. Il avait mis 17 points de suite. Le dernier souffle avec un Kobe en transe. Un moment de grâce. Il devient le joueur le plus âgé à marquer 60 points en NBA. Avant, c'était Wilt avec 32 points. Et là, il y a aussi le moment du discours. Parce qu'on parle des adieux réussis. Il est au milieu du terrain, du Staples Center. Il évoque ses 20 années passées si vite.
What can I say? Mamba out.
Le fameux Mamba out, 5 bagues de champion, un titre de MVP en 2008, 18 fois All-Star, un record à 81 points. Et malheureusement, on se souvient tous de ce 26 janvier 2020 où il perd la vie dans un accident d'hélicoptère avec sa fille Gianna et 6 autres personnes alors qu'il se rendait à un camp de basket.
Et alors pour vous, est-ce que c'est une belle fin de carrière pour Kobe Bryant? La légende quasiment ultime, hein, bah, par MJ, il n'y a pas mieux. Est-ce que c'est une belle fin de carrière?
Non.
Moi, je trouve qu'elle a été pénible cette dernière saison. Elle était longue et c'était long.
La tournée des Beatles, tu vas dans les temps, tu fais ça, tu te montres un petit peu. Alors, oui, le dernier match, il est cool.
Le problème, c'est qu'il n'était absolument pas compétitif. C'est-à-dire que s'ils avaient fait une vraie saison avec un Kobe sur la fin qui fait une tournée d'adieu, pourquoi pas, mais avec une vraie équipe qui joue, qui dispute les matchs, qui est dans la ligue. Mais alors là, c'était long.
C'était une longueur.
Oui, la saison, je suis d'accord avec vous, mais.
Au moins, il y a ce dernier match.
Ouais,
le dernier match.
Et tu finis sur un dernier souffle. Moi, je m'étais levé.
D'accord. De ce point de vue-là, je suis d'accord.
C'était juste incroyable de le voir
finir
comme ça.
Tu vois, tu t'étais pas levé pour le début du match.
Non, je m'étais pas levé pour le début du match. Ouais, à 4h, c'était 4h30
à l'époque. Vraiment, ça avait été un truc de fou, tu aurais été là dès la première
minute. Mais c'est aussi à son image, Kobe, qui reste un joueur fantastique, mais un énorme croqueur. On le sait,
ça. Tu vois les stats. Il y a tout Kobe dans ce match. C'était la conclusion de Kobe. Il y a eu tout Kobe en 48 minutes.
Mais il finit par faire lever tout le monde.
Bon, ok. Qui as-tu choisi, Félix ?
Une autre légende, un autre très grand joueur, c'est David Robinson et sa sortie, sa retraite en 2003. Pour moi, en fait, ça représente beaucoup de l'ADN des Spurs. Donc, pour revenir un petit peu sur comment ça se passe dans la ligue à ce moment-là, il y a les Lakers de Shaq et Kobe qui sortent d'un triplé. Donc 2001-2002. Donc 2003, Robinson, au début de la saison, il annonce sa retraite. Pour revenir un petit peu sur qui est David Robinson, pour rappeler, c'est quand même numéro 1 de la draft. MVP de saison régulière en 1995, leader offensif des Spurs pendant des années et des années. Et là où pour moi ça représente l'ADN des Spurs, c'est qu'en fait c'est un leader qui a peu à peu laissé sa place à Tim Duncan, qui est arrivé. Il a su en fait un petit peu se mettre
un peu en retrait
exactement au diapason de Tim Duncan. Et donc il y a cette saison là 2002-2003 avec les Spurs premier de saison régulière à l'Ouest, ils battent les Suns, les Lakers, les Mavericks en playoff, finale NBA contre les Nets de Jason Kidd. C'est pas le meilleur adversaire de l'histoire en finale NBA, mais quand même ils gagnent 4-2 contre les Nets en finale. Au moment de soulever le trophée, toutes les caméras se braquent sur Robinson, qui affiche un large sourire. Après 14 ans de carrière, il finit son dernier match en soulevant le trophée de champion NBA. Et bah, du coup, lui, il peut partir parce que là, il laisse derrière lui le trio Duncan, Parker, Ginobili. On peut dire que derrière lui, la maison est plutôt bien gardée.
C'est clair que c'est difficile de faire mieux que de partir sur un titre en n'ayant pas quitté sa franchise. À part Zidane, il n'y a pas mieux comme fin de carrière, Fred.
Ouais, c'est pas mal.
Ah. Il y avait Michael, s'il n'était pas revenu aux Wizards.
Il est vraiment identifié.
Ça, j'espère qu'on en dira un mot quand même. Mais je dis Zidane qui finit sur un coup de tête. Hein,
mais,
donc il finit
mais en finale dans la Coupe du Monde.
C'est exactement comme si Zidane avait gagné la Coupe du Monde 2006
mais
avec les Bleus.
Oui, mais même en l'ayant perdu, c'est une vraie fin. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pauvre saison, je ne sais pas où, à Charlotte ou dans une
Tony quand tu parles de Charlotte?
Non, pas forcément. Ouais, mais
j'avoue que tu parles de San Antonio et tu parles de Charlotte dans la foulée, on peut penser que tu penses à Tony.
C'était sûrement inconscient parce que je ne pensais pas forcément à Tipeee, mais il y en a tellement d'exemples comme ça, ce n'est pas toujours nécessaire de la faire cette saison supplémentaire. Hein. Après, je comprends que les mecs, ils ont envie de jouer, de poursuivre, de tenter autre chose, de vivre autre chose, mais David Robinson, bon, c'est parfait, quoi.
À l'image clinique, à l'image des Spurs, c'est propre, c'est net.
C'est ça. Quand la dernière image que tu laisses, c'est toi qui soulèves le trophée. Enfin, qu'est-ce que tu veux laisser plus ? Et surtout, en plus derrière,
en étant bon,
en étant bon, en laissant un peu les autres émerger et en laissant le trio derrière, parce qu'en plus les Spurs, ça regagne deux ans après, en 2005. en 2007, enfin, toi, c'est magnifique, quoi. C'est
la raison pour laquelle LeBron James n'ira pas aux Spurs. C'est vrai que pour revenir au débat de tout à l'heure, Fred, de qui vas-tu nous parler?
Eh ben, j'ai justement parlé d'un joueur qui a traîné ses guêtres en NBA pendant de nombreuses années, qui a joué très longtemps dans la même franchise. Et en fait, j'aurais pu parler de Patrick Ewing, par exemple, qui a été transféré après 15 saisons à New York, qui est passé par Seattle, qui allait à Orlando à la fin.
Pour deux saisons abominables.
Incroyable. Une honte, quasiment, de voir Patrick Ewing avec ces maillots-là. Même chaque dira, on ne transfère pas une légende. Donc voilà, ça a marqué les esprits. C'est pas normal. J'aurais pu parler de Hakeem Olajuwon, qui, après 17 Encore. Saisons à Houston, ben, va lui aussi être transféré. Il va aller à Toronto. Parce qu'ils ne sont pas tombés d'accord sur le contrat. En gros, Houston proposait 2 ans de contrat à 13 millions et ils voulaient 3 ans à 18. Et donc, pour quelques centimes quasiment pour eux, pour la NBA, eh ben, il sera parti. Il ne jouera qu'une saison et il touchera 36 millions à rester chez lui. Mais voilà, pas la fin de saison qu'il méritait. Et finalement, j'ai choisi un autre joueur que j'adore, c'est Sean Kemp.
Ah, Sean Kemp,
parce que quand on pense à Sean Kemp, on pense forcément à Seattle.
Et à l'alcool.
Et alors, d'abord à Seattle, des saisons incroyables, un joueur fantastique, rebondeur, contreur, energizer. Lui qui a fait les beaux jours de Seattle avec Payton, avec Schrempf. Lui qui est allé en finale en 96 contre les Bulls. Et bien, à la fin de ses 8 ans, on lui offre un tout petit contrat. Parce que Jim Ilven. C'est un joueur que personne ne connaît. Jim McIlvain. On lui propose un très gros contrat, sauf qu'il n'y a plus de sous pour Sean Kemp. Et donc, bah, lui, il dit, moi, je veux des sous. Donc, il part. Il part aux Cavaliers, où il est encore très bon individuellement. Mais au bout de 2 saisons où ils ne font pas les playoffs, il est transféré, encore une fois, à Portland. Et là, souci d'alcool, souci de drogue, souci d'enfant avec à peu près la moitié de Portland. Donc, bah, ça s'arrête. On le coupe. Finalement, il va retenter sa chance au Magic. Lui aussi, décidément, où il va rejoindre Tracy McGrady, il va faire une saison à 79 matchs, un peu moins de 7 points, un peu moins de 6 rebonds. C'est fini pour lui. En fait, on croit que c'est fini. Sauf qu'il va aller signer dans le club de Prematia Montegranaro. D'accord ?
C'est où ça ?
En Italie. Où il ne jouera pas, il ne fera que des matchs de pré-saison parce qu'il y a un ouragan qui s'appelle Ike. Et qui va détruire sa maison à Houston, donc il va retourner voir sa maison, et il ne donnera pas de date de retour, donc le club va être contraint de le couper, et c'est comme ça que Sean Kemp, le joueur que toute une génération a adoré, va arrêter sa carrière sans jouer sa dernière saison, en ayant signé un contrat en Italie. Enfin voilà, le cumul de tout, le drogue, alcool, excès.
Un peu comme toi, hein.
Exactement.
Sauf qu'il n'y a pas de maison à Houston.
Exactement. À Limoges, tu vois, il y avait un...
Il n'y a pas d'ouragan.
Très bien, Sean Kemp, je ne connaissais pas cette triste fin de carrière. Un mot de Jordan quand même, est-ce que ça aurait été mieux s'il n'était pas allé aux Wizards?
Oui. Pour moi, ça entache la légende, évidemment ça entache la légende.
Ses perfs, on le sait, sont bonnes. Mais ça
entache pas, mais non, ça,
si,
tu peux pas
ça
dire
entache.
Non, mais
ça entache.
Parce qu'il a fait bon.
Tiens, au final.
Oui, mais son équipe fait pas les playoffs.
Après, il faut se souvenir que les Bulls le foutent dehors, mais bon.
Oui, mais arrête justement. On dit que c'est fini, t'es le meilleur, tu t'arrêtes, t'as assez d'argent largement, il l'a prouvé, il le prouve encore.
Est-ce que vous pensez qu'il est allé aux Wizards en pensant qu'il allait les faire gagner?
Oui. Ouais. Moi, je suis persuadé qu'il a dans sa tête tellement l'ADN du mec qui gagne tout le temps qu'il pensait gagner, sauf que la NBA avait progressé, lui, il avait vieilli, et c'était pas aussi simple.
Alors,
que
peut-être
ça.
Pas en pensant gagner le titre, mais en pensant marcher encore sur certains à l'époque.
Oui. Aller en playoff minimum.
Oui.
On va terminer ce Basket Time avec le quiz comme chaque semaine.
Il n'y a pas de Tariq Abdulwad, on s'est fait 2 éléments majeurs en moins, et c'est vrai que c'est. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Allô ? Oui ? Attends chérie, je suis en train de répondre à une interview, je te laisse.
Et si c'était ça le principal danger pour les Bleus? Un trop plein de sollicitations avant l'Euro?
Je suis vraiment désolé. Hein.
Je m'en lasse pas jamais.
Mais à chaque fois vous allez me la passer celle-là. Vous savez que c'était en 2000. Hein.
C'était Frédéric Weiss, hein, si vous ne l'avez pas reconnu.
Avec son téléphone, pas clapé?
Alors,
pas clapé, évidemment.
Donc on va passer d'une thématique à l'autre, l'actu pure des playoffs et les fins de carrière. Ça donnait quoi la semaine dernière? Qui a remporté le quiz? Vous vous souvenez pas?
Je crois que c'est Fred,
Alex,
non?
Je crois que c'est Alex. Ouais. Après, c'est pour la dernière question.
Ouais. Félix, buzzer.
Félix, ça a été bon pour ta première?
Oui. Je suis un peu écroulé dans le money time, hein, quand même.
Ah, c'est dur. Ouais, hein.
Non, t'es revenu à la fin. Attends,
c'est dur parce qu'il y a la connaissance pure et la réactivité.
Et toi qui me connais, tu sais très bien que la réactivité, c'est pas mon truc.
Alors, on va démarrer par une question de rapidité. Hein.
Oh, ben, ça commence bien.
Qui a déclaré Jamal Murray a mis un shoot?
Anthony Davis.
C'est Anthony Davis sur ce match.
Exact. Bien vu.
Conférence de presse incroyable où on lui demande de raconter la dernière action tellement saoulé.
Et il s'est barré.
Il s'est barré. Voilà, ouais. Il dit ça. Il a mis un shoot et il s'est barré. Donc voilà, Anthony Davis très vexé. En même temps, c'est affreux de se prendre ce shoot-là le lendemain du jour où tu as dit que tu étais le meilleur défenseur
c'est
du monde.
Je pense que c'est ça le problème, en fait. C'est les circonstances qui font.
Alors, là, nous allons faire un petit jeu. Je vous donne un joueur. Vous me donnez son dernier club. C'est clair. Allez. Si je vous dis Michael Allez. Jordan, vous me répondez
Washington Wizards.
C'est parti. C'est des joueurs très connus. Hein. Je ne suis pas allé chercher des trucs trop compliqués. On démarre avec Shaquille O'Neal.
Boston.
Boston, bravo Arnaud. Et oui, on a oublié ça. Boston Celtics, ça portait le
maillot de
Boston.
Il y en a eu tellement Celtics. À la fin de franchise pour Shaq.
C'est clair. Mais il a fini à Boston, ça a dû te faire mal, ça, Fred.
Ça fait très mal. C'était affreux. Bon, en même temps, c'était plus que l'ombre de lui-même.
C'est un Angelinos ou pas, Shaq?
Pardon?
C'est un Angelinos, Shaq?
Je sais plus.
Ah bah maintenant qu'il est parti à Boston.
Il est parti à Boston, j'ai du mal à dire oui.
Attention, Hakeem Olajuwon.
Le club italien.
Toronto. Heureusement que tu me le sors, Fred. Hein. J'aurais été inquiet pour toi. Clyde Drexler.
Lakers?
Non.
Toronto?
Portland? Non. Après Portland, il y a une histoire.
Pas Cleveland?
Il est retourné chez lui. De là où il vient. Parce que
Houston?
Houston, absolument.
Ah oui. Mais il vient de Houston, ça je savais.
Exactement. Il est allé à Houston, il a fait toute sa fac à Houston. Et
il était au Cougar, pas à Houston, je crois.
Attention, continuons, on enchaîne avec Wilt Chamberlain.
Seattle?
Non.
Lakers?
Les Lakers, ouais. Bravo Félix.
Il a cherché un piège en fait. Mais
ouais,
y a...
Parfois il y en a, parfois il n'y en a pas.
Moi aussi je cherche un piège.
Donc ça fait 2 points pour Fred, 2 pour Félix, 1 pour Arnaud. Le dernier club de Reggie Miller, s'il vous plaît.
Indiana,
il n'a pas bougé, absolument. Ouais. C'était un piège. Ils l'ont dit presque en même temps, mais j'accorde le point à Arnaud.
Tu m'en as oublié parce que j'ai dit Boston Shaq et j'ai dit juste avant Lakers pour Wilt.
Il a raison. Mais non, les Lakers, c'est Félix qui a dit Lakers.
Ah, c'est moi.
Ouais, c'est toi, ouais.
Alors, je t'ai donné un point de trop, toi.
Tu peux le laisser, hein.
Attends, je compte 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Non, vous avez tous 2 points. Arnaud m'en demande un troisième. Allez, je t'en enlève un, Félix. C'est comme ça.
Oh, c'est dur.
T'es dur.
T'es rookie. Révision vidéo.
C'est ça.
Bon, peut-être qu'il faudra refaire le décompte des points. Hein. J'ai dû me tromper un moment. Donc, selon un décompte qui sera arbitraire, nous avons Arnaud à 3 points, Fred à 2 et Félix à 1. On n'a pas fini avec ce petit jeu. Pat Ewing.
Magic.
Voilà, bravo Fred, t'as bien bossé aujourd'hui.
En fait, c'est le cul. Ouais, on en parlait.
On s'est pas concerté avant.
Alors, on s'est pas concerté.
Ensuite, il nous en reste 3. Dernier club d'Allen Iverson.
Nuggets.
Beşiktaş. Istanbul. Bravo Félix. Celui-là, il faudrait.
Celui-là, il est fort.
On enchaîne avec Paul Pierce.
Next.
Les Clippers oui, qui revient dans le match, Félix. Tout le monde est égalité à 3 points. Et enfin, dernier club de Jason Kidd.
Dallas.
Non.
Les Clippers.
Non plus.
Jason Kidd.
Mais il y en a un qui est pas loin.
Boston, Knicks, New York.
New York, les New York. Knicks. Je crois que c'est Arnaud qui le dit en premier, Knicks.
Non, j'ai dit Lakers, j'ai pas dit Knicks.
Je crois que c'est moi.
Alors c'est Félix.
Pour le coup, ouais.
Très bien. Donc Félix,
l'injustice
prend la main. L'injustice est réparée.
Tu vois, je reconnais, moi.
Ouais, c'est vrai.
Un point d'avance pour Félix, 4 points, 3 pour Fred, 3 pour Arnaud. On revient à l'actualité Minnesota en demi-finale de conférence. Vous allez me dire tout simplement, c'est très facile, quelle est la meilleure performance de l'histoire de la franchise ?
Finale
de conf, 2004. Ouais, bravo.
Kevin Garnett.
Il est là, Félix. Attention, hein, il a fait le break. je vous fais deviner un joueur qui participe en ce moment au play-off. Je ne vous en dis pas plus. Je vous donne des indices et vous trouvez le joueur. Il sourit, Fred. Il y en a beaucoup. Hein.
Mais il y en a beaucoup, ouais, c'est ça.
Alors, ça va se réduire rapidement. Il participe à ses premiers play-offs.
Anthony Davis.
Anthony Edwards.
Non. Avec 14 points de moyenne pour l'instant. Un joueur qui a été drafté en 18e position. Un joueur qui a fait du temps à la fac. Il a fait 4 saisons à la fac à UCLA.
Raquez.
Excellent.
Jaime
Raquez Junior. Bravo, Fred. Bonne petite première saison. Hein.
Oui, mais en même temps, comme tu l'as dit, hein, il a fait 4 saisons.
Il a eu le temps de s'endurcir.
Plus mûr. Ouais.
Il est prêt. Ouais. Comme quoi, ça ne sert à rien de venir trop tôt.
Ça dépend du profil du joueur.
Peut-être que Bronny peut faire plus. On enchaîne. Ah, une question sur la connaissance historique des playoffs de la NBA. Quel est le joueur le plus vieux à avoir inscrit au moins 20 points et pris 20 rebonds dans un match de playoff NBA ?
LeBron James ?
C'est absolument LeBron James. C'était la saison dernière contre Memphis.
Franchement, tu l'as mal vendu. Hein, parce que histoire, je savais que c'était pas de l'histoire en fait. Je savais que c'était un truc d'un joueur récent.
Oui, mais c'est quand même de
l'histoire. Oui, bien sûr, mais je savais que c'était un joueur récent.
Tu prends le point quand même si tu es très désagréable. Et tu égalises 5 points pour Fred, 5 points pour Félix, 3 points pour Arnaud. Comment s'appelle
Le frère de Bronny James,
Bryce
Maximus James. Attention, Félix reprend la main. Et on va terminer avec un vrai ou faux et la question multipoint. Donc tout est encore possible. Un vrai ou faux sur Jalen Brunson. Vous répondez chacun votre tour. D'accord ?
Son père est Charles.
On démarre avec Arnaud Valadon. Vrai ou faux sur Jalen Brunson, il a été drafté au deuxième tour.
Vrai ?
C'est vrai, 33e position. Bravo Arnaud. Vrai ou faux, Félix, sur Jalen Brunson, son père, Rick Brunson, a 5 sélections avec les États-Unis.
J'ai envie de dire vrai.
C'est totalement faux. Fred.
Il s'appelle Rick au moins.
Parfois, il a une imagination, Pierre, c'est fou.
Il est double champion NCAA.
Oui, quand même.
Oui.
C'est vrai. Absolument, Fred. Et Félix, c'était pas à toi de répondre, mais c'est pas grave.
Non, en fait, je répondais sur le truc d'avant. Je pensais que tu parlais de la carrière de Rick Brunson, mais je me suis emmêlé les pinceaux. Excuse-moi.
C'est pas grave. Et il y a un deuxième tour. Donc, Arnaud, vrai ou faux, son idole de jeunesse, c'est Steve Nash. C'est vrai ou c'est faux?
C'est
Est-ce
faux.
Que j'ai pu inventer ça? Ben non, c'est vrai. Félix, il est fan de Justin Bieber. Est-ce que c'est vrai?
Félix est fan de Justin Bieber.
Oui, toi, je pense, avec ton petit hoodie et ta petite moustache, tu dois être fan de Justin Bieber.
Ça ne trompe pas. J'ai envie de dire faux.
Eh bien, c'est vrai.
Oh, il est fort.
Et enfin, Fred, il mange au moins une fois par semaine des fruits de mer.
Vrai.
C'est faux. On reste à...
Alors là, qu'est-ce que t'en sais? Est-ce qu'il a déclaré « je ne mange pas au moins une fois par semaine »
Mais je savais que t'allais me dire ça. Mais je pense que c'est faux.
Ah, d'accord, tu penses, ok.
Il nous reste donc la question multipoint que l'on va jouer aux enchères. Alors, je vous donne quand même le point du score. C'est Arnaud qui va donner la première enchère, car tu n'as que 4 points. Félix et Fred, vous avez tous les deux 6 points. Il y a un maximum de 6 points à inscrire, d'accord. Donc, ça va être tactique, Arnaud, puisque c'est toi qui poses la première enchère. Jalen Brunson fait partie des 7 joueurs qui ont inscrit au moins 60 points dans un match cette saison. Vous allez me donner les 6 autres. Voilà, il y a 6 points à prendre. Tu peux dire 6 d'entrée de jeu, Arnaud, mais si tu ne les trouves pas, bah, tu auras perdu. À combien tu montes ta première enchère?
3.
3. Est-ce que Félix t'en chérit?
Là, ça se joue avec Fred, en fait. Là, faut...
Pas forcément, parce qu'après, Arnaud peut grimper. Hein.
Allez, 4.
Tu montes à 4, Fred, tu montes?
Non.
Arnaud, tu montes?
Oui.
À 5, je suppose?
Oui.
Est-ce que tu as les 6, Félix?
Je suis pas sûr, mais allez pour le...
Alors, pour le jeu, tu me donnes les 6. Donc, c'est très simple. Soit tu as les 6 et tu as gagné, soit tu chutes et c'est Fred qui a gagné. Je t'écoute.
Joel Embiid.
Joel Embiid, c'est bon. 70 contre les Spurs le 26 janvier.
Stephen Curry.
Steph Curry, c'est bon. 60 contre Atlanta le 3 février.
Luka Doncic.
Bien entendu. 73 contre Atlanta le 26 janvier. Ceux-là, vous les aviez,
les
je pense.
Les 3 que j'avais.
Voilà. Ensuite, on enchaîne. Ça devient un peu plus dur. Il y en a des faciles encore. Il y en a un difficile, hein, je ne vais pas vous mentir. Là.
Est-ce qu'on n'a pas un petit Karl Anthony Towns?
Excellent, c'était le plus dur à trouver, donc tu peux y aller.
Toi,
62 points contre Charlotte le 22 janvier, il t'en reste 2.
Ah, les autres, ça va être dur.
Faut des scoring machines. Hein.
Bah oui.
Je te regarde.
Et depuis le début, j'ai
envie de te dire, il suffit d'y penser. Hein.
J'ai peur en fait de me tromper de saison, mais est-ce que c'est pas un Devin Booker qui traîne?
Bien sûr, un Devin Booker, 62 points contre Indiana le 26 janvier, il t'en manque un. Il t'en manque un pour la gang, le back-to-back, il serait beau. Hein. Pour un rookie.
On est du côté de la Grèce.
Lâche-le.
On a un petit Yanis.
Yanis, 64 points contre Indiana, magnifique. Ouais, bravo, 6 sur 6, tu as mérité ta victoire dans le quiz. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.